Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Carbone pour cette émission, l'invité du jeudi. Aujourd'hui, nous allons accueillir pour son dernier roman, Cécile Baudin, Deuil de sel aux presses de la Cité. Donc, on va découvrir ce dernier roman de Cécile Baudin. Après Marque de fabrique en 2023, La Constance la Louve en 2024 et Dur comme fer en 2025, eh bien, elle signe un quatrième roman, Deuil de sel. On la retrouve dans quelques instants.
It's back heat, dear, and it keeps it out of sight. It's back heat, dear, so there's not a trace of red.
Voilà, et bien comme promis, on reçoit aujourd'hui notre invitée du jeudi, Cécile Baudin, pour son dernier roman, Deuil de sel. Eh bien, bonjour Cécile.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous.
Vous allez bien ?
Très bien, pleine forme, en ce beau soleil printanier.
Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop mal. Bon, alors on va parler de ce dernier roman. C'est vrai que c'est votre quatrième aux presses de la Cité, hein, et c'est votre quatrième en tout.
C'est mon quatrième en tout, oui.
Ah oui,
quatre romans et quatre ans, quatre romans.
Ouais, bon, on avait parlé de Marque de fabrique, La Constance la Louve et Dur comme fer. Et là, vous allez nous entraîner dans une histoire, alors très compliquée apparemment. Hein. Deuil de sel. Alors, vous situez ce roman dans Salins-les-Bains. Pourquoi Salins-les-Bains ? Parce que c'est une commune française.
Qui est dans, en fait, dans chacune...
Dans le Jura, je crois, hein, c'est ça ?
Oui, c'est ça, dans le Jura. Dans chacune de mes histoires, j'essaye en fait de faire connaître, de mettre en valeur et d'utiliser des endroits qui sont véritables, hein, en France, parce qu'on pourrait aussi les inventer, mais moi j'aime mieux m'ancrer dans des lieux existants. Et à chaque fois, je change. Marque de fabrique se passait dans l'Ain, La Constance de la Louve en Lozère, Dur comme fer en Lorraine. Et là, eh ben, je vous propose de vous emmener dans cette région du Jura que je ne connaissais pas très bien, que j'ai découverte un petit peu par hasard. Et j'ai découvert son histoire géologique et historique absolument incroyable, puisque vous savez peut-être Jean-Pierre, mais à Salins-les-Bains, il y a un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que j'ai découvert donc, et dont je parle dans ce roman et où se passe mon intrigue.
Ok. Alors, bon, c'est que là, vous nous proposez quelque chose d'assez compliqué. Hein, ça... Alors, pourquoi l'avoir situé en 1960, déjà ?
Bah, en fait, cette histoire, donc, L'œil de sel, est la première histoire d'une série de au moins trois romans qui mettront en scène la même héroïne. Il s'agit d'une généalogiste successorale qui, à travers ses enquêtes de recherche d'héritiers, vous savez, hein, pour des successions qui n'en ont pas, va résoudre des vieux cold cases qui datent des années 60. Alors, pourquoi les années 60 ? D'abord parce que c'est assez loin de nous, tout en étant quand même suffisamment proche pour qu'il reste des témoins et des acteurs vivants, hein, de cette époque. Et puis, parce que j'avais envie d'essayer de revisiter d'une manière un peu différente cette époque dont on parle beaucoup quand il y a des crises économiques, on nous rabat les oreilles un peu avec cette histoire de Trente Glorieuses, et c'est vrai, hein, qu'il y a eu un fort développement économique, mais les années 60 n'ont pas été que glorieuses, elles sont un peu plus complexes que ça. C'est l'époque du début de la désindustrialisation, de la consommation de masse, dont on voit aujourd'hui qu'elle n'est pas forcément que positive. C'est le début de grandes difficultés écologiques et de pollution. C'est des conditions de la femme encore pas super. C'est aussi les guerres de décolonisation. Donc voilà, les années 60, c'est pas non plus que glorieux. Et j'avais envie d'essayer de les revisiter de manière un peu plus un peu plus critique et un peu plus nuancée.
Oui, parce qu'il faudra attendre après les années 68, hein, pour voir un peu la libération de tout. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, chez quelqu'un avait titré « Ce n'est pas une révolution, mais c'est une évolution ». En fait, c'était tout à fait ça, hein, 1968. Donc, ça a beaucoup changé par rapport à 1960. Alors, vous nous emmenez là à Salins-les-Bains, mais alors, il se passe plein d'événements complètement fou, des chats qui disparaissent, les lettres d'un corbeau, un accident aux allures de suicide, un meurtre est perpétré, le coupable est arrêté, mais c'est pas si simple que ça, parce que nous mettez un jeune curé, là, dans ce roman, Christian Roche, curé de la paroisse, alors il décide de suivre une autre piste. N'est-il pas celui à qui tout se confesse? Alors, en principe, oui, mais on sait aussi que normalement, il y a le secret de la confession.
Eh bien, c'est tout le problème. C'est que effectivement, lorsque cette petite commune, l'été 1960, une commune d'ordinaire très calme, va être secouée par un certain nombre d'événements étranges, hein, vous l'avez dit, des animaux domestiques commencent à disparaître, certains notables reçoivent des lettres d'un mystérieux corbeau qui dénonce un petit peu leur turpitude, puis la femme de l'un d'entre eux va se suicider, ça paraît un peu étrange, jusqu'à la disparition d'une jeune fille. Et du coup, on va vite arrêter un coupable qui coche absolument toutes les cases, mais le curé, parce qu'il reçoit les confessions des uns et des autres et qu'il connaît un petit peu tout leur vilain petit secret, semble douter de la thèse officielle. Et donc, comme il ne peut pas en même temps s'en ouvrir, parce qu'il veut respecter le secret de la confession, il ne peut pas s'en ouvrir à la police notamment, aux uns et aux autres, et ben il va décider de mener sa propre enquête à lui, au sein de ses paroissiens. Donc ça, c'est la première partie du roman qui se passe en 1960. Et ensuite, dans une deuxième partie, on va immédiatement faire un bond dans le temps pour se retrouver de nos jours. Et on va reprendre, d'une certaine manière, l'enquête qui avait été effectuée 65 ans plus tôt par ce fameux curé.
Alors, c'est vrai que c'est Claire Levaillant, hein, votre généalogiste successoral à Lyon. Alors, on sait que la généalogie, en ce moment, c'est quelque chose qui marche très fort. Hein. On voit que les familles ont envie de savoir, de connaître leurs ancêtres. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sortent, hein, sur la généalogie. Et alors, vous lui avez mis un assistant junior. Donc, elle doit, elle, justement, remonter la généalogie de cette personne qui est défunte, sans héritier connu. Alors, c'est là que le bât blesse.
Bah, en fait, les généalogistes successoraux sont des gens qui, on les voit, hein, parfois à la télé, sont des gens qui doivent trouver des héritiers pour des successions qui n'en ont pas. Et quand les successions n'ont pas d'héritiers, ça veut dire qu'il y a eu des histoires de famille parfois un petit peu compliquées. Il n'y a pas forcément eu d'enfants ou alors ils sont décédés et on est obligé d'aller chercher plus loin dans la famille des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là que le généalogiste successoral entre dans l'historique de la famille, la reconstitution de toute une lignée. Et puis, bien sûr, ça va le faire rentrer dans des secrets de famille, des histoires d'enfants parfois naturels, parfois adoptés, parfois légitimes, des histoires de succession, voilà. Et c'est une façon de revisiter aussi l'histoire de ces dernières décennies en entrant dans l'intimité des familles, puisque finalement, le généalogiste successoral, il traverse des tas de problématiques très romanesques. On va parler d'argent, on va parler d'héritage, on va parler de succession, on va parler de droit aussi successoral. Et puis, on va rentrer dans les secrets des uns et des autres. Forcément, on va parler d'amour, de séparation et de mort. Donc tout un tas de thèmes très romanesques. Et je trouvais intéressant d'enquêter sur des sources, pour une fois un peu différentes, des enquêteurs traditionnels, des policiers, voilà, ou de la technologie, puisque les sources des généalogies sont principalement des archives, soit les archives de l'état civil, les archives départementales, des archives parfois judiciaires, médicales, militaires. Il y en a énormément, cadastrales. Il y en a énormément en France qui sont extrêmement riches, extrêmement bien classées. Et je trouvais rigolo de voir si, en travaillant dans des archives aujourd'hui, on pouvait résoudre des mystères d'hier.
Et alors, oui, donc Claire Levaillant, mais est-ce que...
Claire Levaillant.
Qu'est-ce que j'ai dit là? Oui, Claire Levaillant, pardon. Oui, Claire Levaillant. Oui, je disais, par contre, avec l'histoire du père Christian Roche, Est-ce qu'elle a accès? Est-ce qu'elle le rencontre? Ça se passe comment, là? Parce que...
Ah ben ça, il faut lire le livre, cher Jean-Pierre.
Oui, 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 non, mais je sais. Mais surtout, il faut, pour donner une petite indication quand même au lecteur, sans trop dévoiler, elle va forcément aller vers lui, parce que lui, il sait des choses que les autres ne savent pas.
Il est peut-être mort, il est peut-être plus là. Non, ça, il faut le lire pour savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enquête de Claire Levaillant va naturellement croiser celle du père Roche, puisque finalement, elle va croiser dans la généalogie de la défunte sur laquelle elle travaille, elle va croiser notamment l'histoire de ce fameux suicide, et elle va se mettre en tête de résoudre ce mystère, parce qu'elle le trouve bizarre, ce suicide, et c'est comme ça que finalement, son enquête va croiser celle du père Roche. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement, dans cette deuxième enquête, qui se passe 65 ans plus tard, on va pouvoir revoir ou revivre la première partie de cette histoire, celle qui se passe en 1960, d'une manière totalement différente de ce qu'on avait cru comprendre ou de ce qu'on avait imaginé en la lisant dans la première partie. La deuxième partie, c'est finalement une relecture de la première, où on va se rendre compte que ce qu'on avait cru comprendre n'est pas tout à fait la réalité. C'est ça qui est intéressant, et c'est comme ça que ces deux enquêtes se croisent et se rejoignent malgré 65 ans d'écart.
Oui, et puis la personne qui a été arrêtée rapidement, finalement, on découvrira si c'est elle ou si c'était pas elle, parce que c'est vrai que souvent ça arrive, hein, dans les enquêtes, il y a quelqu'un qui a tout contre lui, puis on se rend compte finalement qu'après, bah, il était pour rien. Alors, c'est très compliqué. Elle va révéler tout cela en reprenant, oui, ça fait deux enquêtes en fait, hein. La première en 1960, qui est peut-être plus, comment dirais-je, de la vue par la justice, alors qu'elle, c'est vraiment qu'elle repart un petit peu dans cette famille pour voir tout ce qui s'est passé. Parce qu'on parle d'un suicide, mais qui peut être un meurtre, et ça va avancer comme ça tout au long du roman.
Oui, bien sûr, l'idée, c'est effectivement de voir comment, lorsqu'on change ses sources d'informations, on peut aussi changer d'opinion sur un phénomène ou sur des événements. C'est ça qui est intéressant. Alors effectivement, moi j'aime bien, d'une manière générale, placer des enquêtes dans le passé, parce que du coup... il y a beaucoup plus de mystères, en tout cas selon moi, puisqu'on n'a pas accès aux technologies. Effectivement, en 1960, alors il y a quand même deux, trois trucs, hein. Il y a des autopsies, il y a des empreintes digitales, des choses comme ça, mais il n'y a pas le numérique, il n'y a pas l'ADN, il n'y a pas la géolocalisation ou ce genre de choses. Et donc, on est peut-être plus sujet aux erreurs judiciaires, on est peut-être plus sujet aux interprétations. On veut peut-être résoudre un peu plus vite ou différemment les affaires. C'est aussi l'époque où les peines sont encore très très lourdes. Hein. Il y a bien sûr, on le sait, encore la peine de mort en théorie. Le bagne commence tout juste à être interdit. Hein. 1960, le début des années 60, c'est le moment où le bagne est remplacé par la perpétuité, en fait. On arrête d'envoyer des prisonniers au bagne. Donc, c'est une période aussi pour la justice un petit peu charnière. Donc, voilà, c'est intéressant de voir comment un même événement peut être traité à deux époques différentes, avec deux sources d'enquêtes différentes.
Oui, on parle de l'ADN qui, de plus en plus, est fiable, hein, parce que même en suivant quelques émissions, justement, là-dessus, où des meurtres n'ont pas été élucidés, ou alors on y revient comme ça, et puis avec l'ADN, puisqu'il y a un fichier national, hein, maintenant, et on arrive à des faits qui n'ont pas été trouvés, on y revient et on arrive à découvrir, même peut-être pas aussi autant de temps que là, mais des fois 10, 15 ans après, eh ben que finalement la personne qui avait été condamnée, c'était pas elle. Et grâce à l'ADN, ça fait beaucoup de progrès, ça. Hein.
Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et notamment dans la filiation, hein, il y a beaucoup de débats autour notamment de la génétique généalogique pour utiliser la génétique pour essayer de reconstituer des lignées lorsque d'autres sources ne sont pas disponibles. Donc c'est un sujet effectivement très intéressant qui rejoint, par définition, hein, qui rejoint généalogie et génétique se rejoignent effectivement dès lors qu'on parle de lignées d'identification de descendants ou d'ascendants, soit pour des affaires judiciaires, soit pour des affaires de succession.
Alors aujourd'hui, on est en compagnie de Cécile Baudin pour son roman « Deuil de sel ». C'est un rapport avec Salah Lema, hein, Salah, Dieu de, deuil de sel. Voilà, vous avez voulu ce titre.
Ah bah oui, j'ai voulu ce titre. Donc comme je vous le disais, ça se passe dans cette partie du Jura qu'on ne connaît pas forcément tous très bien. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas très bien. Il se trouve que sous cette zone-là de la montagne dans le Jura se trouve une mer souterraine, à peu près à 250 mètres de profondeur, qui se trouve être excessivement salée, probablement la plus salée du monde, puisque on est au degré maximum de salinité, au-delà, le sel n'est plus soluble, tout simplement. Et cette mer souterraine à 250 mètres, on a appris au fur et à mesure des siècles à la pomper, puis à la faire s'évaporer de manière mécanique dans des espèces de poêles géantes, grandes comme des moitiés de cours de tennis, pour produire un sel qu'on appelait à l'époque le sel du lion, et qui était commercialisé jusqu'au début des années 60. Et donc, il reste les traces de cette exploitation de ce sel souterrain, hein, de ce sel d'une mer souterraine, à Salins-les-Bains, notamment ce qu'on appelle la Grande Saline de Salins-les-Bains, une espèce de cathédrale souterraine sous la ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est très très belle, et où on pompe, on pompait et on pompe toujours d'ailleurs pour les touristes, le sel souterrain. Et voilà, je trouvais intéressant de travailler autour du sel, parce que outre le fait que c'est très beau et très intéressant de voir ça à Salins, c'est aussi quelque chose qui renvoie le sel aux larmes, à la terre, à la vie, voilà. Et à la conservation aussi des souvenirs, des corps. Voilà. Donc, je trouvais intéressant de travailler sur le sel.
Oui, puisqu'avant le frigorifique, eh ben, on conservait beaucoup de choses dans le sel, hein, puisque c'était, on le voit d'ailleurs, pour le poisson même, ça continue, puisque dès qu'il est pêché, on le met dans le sel, hein, pour qu'il se conserve. Donc c'est quelque chose à une époque qui a été beaucoup utilisé. Hein.
Absolument, et puis alors c'est d'autant plus vrai qu'effectivement, par exemple, le sel du lion, qu'on fabriquait donc à Salins-les-Bains, par exemple, on a arrêté de le produire au début des années 60, parce que à partir du moment où on a commencé à inventer et à développer des frigos, bah on a eu beaucoup moins besoin de continuer à dépenser autant d'argent pour le sel. Donc voilà. Et puis il a été aussi concurrencé par le transport de marchandises. Concurrencé par le transport de marchandises qui devenait moins cher dans les années 60. Et il a commencé à disparaître, à ne plus être compétitif, parce que c'est aussi ça les années 60, hein, c'est aussi la disparition de certains produits. D'une part, et puis d'autre part, je trouvais intéressant aussi de travailler sur le sel, parce que le sel, à une époque, c'était extrêmement précieux. Le sel, on payait des impôts dessus. Attends, ne quittez pas, quelqu'un m'embête à la porte.
Quand on parlait de sel, c'est vrai que le sel, c'était une monnaie à une époque, on payait tout en sel. Hein.
Oui, absolument, on payait en sel. Et vous savez, j'ai découvert à cette occasion-là que c'est à cause de ça que le mot salaire existe.
Ah oui, ça vient de sel.
Ça vient du sel, parce qu'on payait au tout départ, à l'époque romaine, on payait parfois les soldats avec du sel, tellement c'était précieux, tellement ça avait de la valeur. Et les fortifications qui existaient, aujourd'hui elles sont très abîmées, mais les fortifications qui existaient autour de la ville de Salins-les-Bains étaient là pour protéger le sel, tellement c'était précieux. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a caché, qu'on l'a fermé dans des forteresses, et ça a fait la richesse, de cette région. C'est d'ailleurs pour ça que l'Anse-le-Saunier s'appelle l'Anse-le-Saunier, hein. C'est à cause des sauniers de la montagne. Et c'est le symbole pour moi de quelque chose qui à une époque, si vous voulez, incarne une richesse absolue et qui en quelques années devient un produit d'une consommation tellement courante et tellement simple qu'aujourd'hui plus personne ne pense que c'est précieux ou que ça a été précieux à ce point. Et donc pour moi c'est vraiment très symptomatique de cette transformation de ce qui est précieux, si vous voulez, dans le temps.
Alors, c'est vrai que Claire Levaillant, dans sa recherche généalogique, alors, ça fait en fait 65 ans après, hein, donc il y en a qui ont disparu, il y a peut-être des gars, de la famille dans la succession qui n'était pas du tout au courant de cette affaire, c'est quand même un petit peu compliqué pour Alain de remonter 65 ans avant.
Bah, c'est son job. Elle travaille notamment avec des archives de l'état civil. Elle travaille à remonter les mariages, les naissances, les décès pour arriver à reconstituer les lignées. Donc c'est son travail. Elle a accès, parce que c'est son métier, à l'intégralité de ces informations, mais il faut savoir que pour tout un chacun, pour vous et moi, on n'aurait pas le droit, nous, d'accéder librement comme ça aux archives d'état civil sur la vie de n'importe qui. Les archives sont protégées. Il y a ce qu'on appelle les délais de communicabilité. Et la plupart des archives de cette nature, vous et moi, n'y avons pas accès entre 75 et parfois 100 ou plus ans après les événements. Donc, elle peut accéder à des informations auxquelles vous et moi, on n'aurait pas forcément accès. Et c'est ce qui lui permet de reconstituer des lignées.
Alors, est-ce que on sait que quand il y a une succession, un décès, les notaires doivent rechercher s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent avoir droit à cette succession? Est-ce qu'ils passent toujours par les généalogistes comme Claire?
Alors, l'immense majorité du temps, oui. Sauf quand vraiment il y a des choses extrêmement simples qui récupèrent un acte de naissance, par exemple, et que c'est très très simple. Mais très vite, dès qu'on ne sait pas qui sont les héritiers, dès qu'on n'en est pas certain, dès qu'il n'y en a pas, dès qu'il en manque, dès qu'on veut vérifier, et notamment, par exemple, lorsque des gens font des testaments à des gens qui ne sont pas de leur famille, on vérifie qu'ils ne lèsent aucun héritier, ce qu'on appelle un réservataire, c'est-à-dire à qui on doit réserver une partie de l'héritage. Et pour ça, on missionne des généalogistes successorales pour vérifier qu'on ne laisse pas des héritiers réservataires. Et effectivement, c'est leur métier, ils sont missionnés par les notaires pour faire ça, et ils sont environ plus ou moins 800-900 en France à faire ce métier, et c'est leur spécialité.
Ah oui, ils sont assez nombreux quand même, hein, près d'un millier, c'est pas mal, hein.
C'est pas si mal. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de familles qui se connaissent pas bien aujourd'hui que par le passé, parce que c'est vrai que par le passé, il n'y avait pas la même traçabilité, bien sûr, des gens, il n'y avait pas d'empreinte numérique, et puis il y a eu quand même deux guerres majeures tout au long du XXe siècle qui ont quand même beaucoup séparé les familles et créé du chaos. Mais quand même encore aujourd'hui, il peut y avoir, vous savez, des familles qui se disputent, des gens qui vont refaire leur vie, des familles qui se séparent, des parents qui ne voient plus leur enfant, par exemple des divorces ou des séparations, des choses comme ça. Et c'est ça qu'on doit vérifier et qu'on doit reconstituer sur plusieurs générations.
Oui, parce que justement, on parle, surtout, c'est l'époque un petit peu, hein, ça a l'air d'être comme ça. Il y a beaucoup de familles recomposées, alors ça peut être très compliqué, hein.
Il y a des familles recomposées. On bouge aussi beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire que les familles avant, elles vivaient toutes autour à peu près d'un village originel. Donc, on savait à peu près qui était où. Mais aujourd'hui, quand vous avez des gens qui se séparent, des gens qui se remarient, plusieurs lignées, plusieurs descendances, des gens qui vont vivre des fois à l'étranger, des gens qui vont vivre ailleurs, on ne sait pas toujours où, c'est bien sûr beaucoup plus difficile de parfois garder le contact ou le lien avec l'intégralité de toute une famille lorsqu'il peut y avoir des migrations et tout un tas d'événements dans la vie, des remariages, des choses parfois un peu complexes.
Oui, il y en a toujours, de toute façon, dans toutes les familles, hein, plus ou moins. Alors aujourd'hui, on est avec Cécile Baudin pour parler de son dernier roman, Deuil de sel, aux presses de la Cité. Claire Levaillant, là, notre généalogiste successorale, qui s'est lancée dans une enquête assez compliquée. Enfin, moi, je trouve qu'elle est compliquée quand même. Alors bon, on verra la chute à la fin du livre.
Arrêtez de dire ça, Jean-Pierre. Vous allez finir par faire peur à force de dire que c'est compliqué.
Non, mais je trouve que c'est bien. Non, mais souvent, dans les romans qu'on a, les gens, les auteurs essayent un peu d'emmener leurs lecteurs sur plusieurs pistes. Et finalement, c'est ce qu'il y a de bien. Parce que si, dans les 20 premières pages, on commence à savoir comment ça va finir, moi, je trouve que c'est pas bien. Alors, en les emmenant un petit peu dans justement cette enquête dans la généalogie, je trouve que c'est assez sympa, quoi.
Bah oui, et puis c'est assez original. Vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de gens s'intéressent à la généalogie. Déjà d'une façon générale, dans les périodes où l'actualité est assez angoissante, hein, ce qui est quand même le cas aujourd'hui, en ce moment. Les gens se tournent aussi un peu vers le passé, vers une forme de nostalgie, vers des choses qui les rassurent, vers leur histoire et leur famille, hein, des choses qui sont finalement assez réconfortantes. Et la généalogie fait complètement partie de ces activités-là. Donc c'est très intéressant en cela. Et puis c'est une façon de découvrir ce fonds d'archives français incroyable, extrêmement bien tenu, extrêmement riche, et de comprendre finalement comment toutes nos vies, aux uns et aux autres, sont quelque part dans des archives fiscales, militaires, médicales, administratives, et de toute nature.
Alors, 1960, on le disait, donc c'est l'année où tout s'est passé. Est-ce que Claire Levaillant revient dans cette commune, elle remue peut-être quelques souvenirs, parce qu'il y a quand même des personnes qui sont encore vivantes, hein, en 1960, 2025, ça fait 65 ans. Donc, alors est-ce que ça... Oui, on était en train de... Oui, dans une période compliquée où les gens reviennent un petit peu dans leur passé, comme vous le disiez, hein, pour se rassurer un peu.
Oui, et puis parce que c'est probablement réconfortant, intéressant, et puis qu'on a besoin de revenir sans doute à des choses qui parlent de nous, de nos familles, à se recentrer un petit peu sur la famille. Hein. La famille, c'est la valeur refuge quand l'environnement est angoissant comme c'est le cas aujourd'hui. Donc oui, vous me demandiez aussi si Claire Levaillant croisait des gens de l'époque des années 60. Alors c'est possible, hein, elle va d'ailleurs passer un petit peu de temps dans un EHPAD de la région, comme ce que j'ai fait moi d'ailleurs, hein, quand j'ai préparé le livre, pour glaner des informations, puisque outre les sources d'archives, elle peut trouver des informations auprès des gens, dans les cimetières et dans tout un tas d'endroits où le souvenir, d'une certaine manière, est archivé.
Oui, c'est sûr qu'il faut chercher un petit peu partout, hein, quand c'est comme cela, surtout que apparemment la personne qui est décédée n'aurait pas de... aurait pas d'héritier, hein, ce qui paraît quand même un petit peu bizarre, parce qu'il y a toujours ou des neveux, ou des petits-neveux, ou des grands-neveux. Donc ça paraît d'autant plus bizarre.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc Claire Levaillant va, au travers de son enquête, révéler tout ça. Et on verra, en fait, qu'est-ce qui s'était passé en 1960. Alors, est-ce un suicide? Est-ce un meurtre? La question est posée. Pour cela, il faut lire « Deuil de celle de Cécile Baudin », donc aux presses de la Cité. Alors c'est vrai que vous êtes très impliqué, je disais, dans les autres romans. Il y a toujours un rapport avec la région où vous situez votre action.
Oui, comme je vous le disais, moi je suis très attachée aux régions, très attachée à leur patrimoine aussi, hein, à ce qu'on pourrait appeler le patrimoine immatériel, c'est-à-dire les métiers, les savoir-faire, d'une manière générale toute cette compétence industrielle et artisanale, hein, qui sont aussi un actif français selon moi. Et j'essaye de manière, bien sûr, romanesque et vivante et avec du suspense, bien sûr, mais j'essaye de redonner vie aussi à ces villes, à ces métiers, à ces savoir-faire, parfois à ses entreprises, à des corporations, pour qu'on les connaisse d'une façon un peu ludique et dynamique. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand je suis dans un salon et que les gens me disent « Ah, mais on a lu votre livre, ça nous a donné envie de visiter la Lozère » ou « Ah, bah, ça nous a donné envie d'aller visiter les soirées à Jugerieux, les soirées Bonnet ». Et voilà, donc j'espère que des gens me diront « Ah, bah, ça nous a donné envie d'aller visiter la Grande Saline de Salins-les-Bains ».
Ouais, bah, déjà, rien que ce que vous avez dit, ça donne envie, puisque moi, je ne savais absolument pas cette histoire de mer sous-marine avec du sel. Donc là, c'est quand même assez curieux. Hein.
Ah oui, c'est une originalité et c'est vraiment très très beau quand on visite la saline. On voit encore cette espèce de pompe, ça fonctionne comme un puits de pétrole un peu et ça fort à 250 mètres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des thermes, hein, bien sûr, dans la ville, des thermes. Donc comme il y a des thermes, il y a aussi un casino. Et ça a fait la fortune de cette petite cité thermale de montagne.
Ah ben c'est sûr, dès qu'il y a un casino, là, c'est gling dans la tirelire. Hein. Ça, on le voit chez nous, hein. Pas loin, on a une ville qui s'appelle Saint-Galmier, hein, et qui est à côté de Saint-Étienne, et qui a un casino. Et c'est la commune la plus riche de la Loire. Hein. Donc voilà, c'est résumé. Alors, toujours, c'est un peu ma dernière question, hein, Je demande toujours, parce que je sais que les auteurs ont toujours un roman, voire deux sous le coude. Alors, est-ce que c'est votre cas, vous, après celui-là ?
Le prochain est déjà prêt et je suis sur celui d'après encore. Voilà.
Ah, bah, ça y est.
J'aime bien avoir un peu d'avance sur les aventures de Claire Levaillant.
D'accord. Oui, parce que vous allez garder votre héroïne, on peut dire, dans les prochains romans.
Bah oui, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'elle continue à explorer les années 60 ou même peut-être 70 ou 80 et différentes régions de France à chaque aventure.
Alors, vous allez la situer où, là, le prochain roman, vous le situez où ?
Ah ah, mystère. Ce sera du côté des bords de Loire.
Ah, très bien. Donc, on attend avec un... Donc, c'est pour 2027, celui-là ?
Ce sera 2027. Ouais. Et pour l'instant, je vous donne rendez-vous dans le Jura avec Deuil de sel.
Eh oui, c'est sûr. Et puis 2028, il y en aura un autre, alors.
Bien sûr.
Et toujours avec Claire Levaillant.
Toujours avec Claire Levaillant.
Donc c'est un peu une saga, on peut dire, hein, quand même.
Oh, une saga, je n'irai pas jusque-là, mais je compte bien en faire au moins trois.
Oui, oui, bah si, y a un autre auteur. Allez, ça y est, je viens de faire un de ses livres avec elle, qui fait les petites meurtres d'Agatha du Tricot Club, là, qui est un peu pareil, et qui fait comme ça, elle en est à 6, elle va arrêter pour le moment, mais elle fait suivre toujours avec, dans son roman, eh ben, une personne qui est dans tous les romans, et qui fait elle aussi des enquêtes, quoi, voilà, donc c'est une suite, hein, mais qui sera complètement différente. On ne parlera plus de sel. Hein.
Ah oui. Voilà, exactement. On changera d'époque, de thématique, de fond, même si bien sûr il y aura toujours des recherches généalogiques. On changera de sujet criminel et puis on changera également d'endroit.
Très bien. Eh bien écoutez, Cécile, merci d'avoir été avec nous. Donc, ce roman vient juste de sortir. Et bah, je pense qu'encore il va très bien marcher parce que l'intrigue est assez sympa. Vous nous avez déjà fait découvrir quelque chose à Salins-les-Bains. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le découvrir en lisant votre livre, hein, parce que je suis pas sûr, à part ceux qui connaissent la région peut-être, et encore, hein, pas sûr, qui savent ce qu'il y a sous leurs pieds. Ben merci beaucoup d'avoir été avec nous.
J'en profite pour donner rendez-vous à vos auditeurs au Quai du Polar, qui sont dans moins de deux semaines maintenant et qui sont le grand rendez-vous du polar français et international. Et j'aurai le plaisir d'y être. Donc voilà, qui n'hésite pas à m'y retrouver vendredi, samedi et dimanche du premier week-end d'avril.
Alors c'est où déjà ? Je me rappelle plus parce que je sais que j'ai.
Palais de la Bourse.
Ah d'accord. D'accord.
Et la Bourse à Lyon.
Et vous n'êtes pas au clair au Salon du Livre, Livre Évasion, non ? Vous n'avez pas été contacté ?
Non, pas cette année.
Vous êtes déjà venu ?
Oui, je suis déjà venu, ouais. Mais cette année, j'ai d'autres salons sur ce week-end-là.
D'accord. Bah, c'est ça le succès. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir été avec nous.
Merci à vous, merci à vos auditeurs et très bonne journée à tous.
Et à bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, nous étions avec Cécile Baudin qui nous a parlé de son livre, donc Dieu de sel, aux presses de la cité. Alors vous voyez, hein, avec un gros suspense. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h, le mercredi à 12h30.
Oh, the line forms on the right, dear. Now that Maggie back in town.
Take it, Satch.
On va se quitter avec cette chanson d'Olivia Ruiz qui s'intitule tout simplement Le sel.
Quand au fond quand que la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe, quand tout semble insurmontable, que mes forces me quittent, que je me cache sous la terre, que mes heures se délitent, il suffit que tu apparaisses pour repousser les vents. Il suffit que je te reconnaisse, car tu es le sel, la cannelle, le piment. Quand je m'ennuie, que les jours perdent leur saveur, quand la vie fuit, qu'il ne reste que la torpeur, quand le froid me saisit et me fige, que la lassitude m'affaiblit et m'oblige, il suffit que je te regarde pour que le ciel s'allume. Il suffit que je te regarde, car tu es le sel, la cannelle, le piment.
Cette émission est terminée, l'invité de jeudi aujourd'hui accueillait Cécile Baudin pour son dernier roman « Dieu de sel » qui se déroule à Salins-les-Bains aux presses de la Cité. Bonne soirée à toutes et à tous.